Yofi. Tov, alors Tov, les Koulam, et bienvenue dans notre cours hebdomadaire sur les grands personnages qui ont modelé notre identité durant ces 100-150 dernières années. Et aujourd'hui, eh bien voilà, vous l'aurez compris, et on parle d'un personnage, j'ai été obligé de m'habiller de circonstances, puisque nous allons parler aujourd'hui du Rav Yehuda Léon Ashkenazi, mais qui évidemment pour nous est connu sous le nom de Manitou. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de ressortir, eh bien, ma khoulta de Zéhi, et parce que si ben Manitou Askinan, si on parle de Manitou, eh bien, il va falloir qu'on reparte en arrière dans cette époque incroyable, cette époque des mouvements de jeunesse, et ainsi de suite. Alors, je vais vous dire tout de suite, je suis très très ému de faire ce chiour. C'est pour moi une émotion particulière parce que d'un côté, j'ai jamais rencontré Manitou, mais une très très grande partie de mon identité et de mon identité toranique viennent de lui, puisque je suis l'élève de son élève, et donc pour moi c'est quelque chose de très fort de pouvoir maintenant, eh bien, retransmettre les grands piliers de l'enseignement du Rav Ashkenazi. Alors justement, toute la question va être de savoir ce soir, est-ce qu'on parle du Rav Ashkenazi ou est-ce qu'on parle de Manitou? Et ça, eh bien, c'est une grande question, et ne croyez pas qu'il s'agit simplement d'un jeu de mots. C'est une vraie question au niveau de si on, est-ce qu'on a compris qui était Manitou ou le Rav Ashkenazi. Et donc, il va falloir qu'on essaie de décider à la fin du cours comment est-ce qu'on décidera de l'appeler. Alors, Manitou, c'est, je pourrais pas passer des heures sur sa biographie en termes d'événements. Il y en a pas tant que ça, finalement. Alors, on va commencer tout simplement. Oui, vous le savez, il vient d'Algérie. Il est né en 1922 à Oran. Et jusque-là, rien d'extraordinaire, à part le fait qu'il est le fils du Rav David Ashkenazi, qui était le dernier grand rabbin d'Algérie. Maintenant, ce qui est assez intéressant et vraiment révélateur de la personnalité de Manitou, c'est que tous les grands rabbins d'Algérie ont tous été des Ashkenazim. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les rabbins d'Algérie, lorsque l'Algérie était française, évidemment, eh bien, tous les rabbins étaient nommés par le consistoire de France, et donc, eh bien, c'était des rabbins ashkénazes. Le seul et premier et dernier grand rabbin d'Algérie qui était d'origine séfarade, et qui était un vrai séfarade, eh bien, c'était le père de Manitou, le Rav David Ashkenazi. Donc, tout ça pour mettre en place que le Rav Ashkenazi va grandir dans une ambiance séfarade originale, comme on dit en hébreu, originale, c'est-à-dire de base. Et là-dessus va s'ajouter d'autres identités. Mais on ne pourra pas oublier que la base de son éducation est une éducation séfarade. Séfarade, je veux dire, pas babylonienne, c'est-à-dire pas de Bagdad, comme on peut être le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Ovadia Yosef, non, pas du tout. On parle de cette éducation de tradition nord-africaine, comme on pouvait parler du Rabbi Shalom Messas, comme on a parlé de Rabbi Moshe Chalfon HaKohen. Et donc, rien d'étonnant à retrouver le jeune Yehuda Léon Ashkenazi autant sur les bancs de la Yeshiva que sur les bancs de l'université. Il n'y avait pas dans le monde séfarade cette dichotomie entre l'étude de la Torah et l'étude du chol. Parce que justement, pour les rabbins séfarades, il ne s'agissait pas de chol. Il s'agissait d'autres moyens d'arriver à comprendre les voies d'Akadosh Baruch Hu. En 1943, il a 21 ans et il est enrôlé de force dans la Légion étrangère française. Nous sommes en pleine Deuxième Guerre mondiale, il a 21 ans. Et il rentre, eh bien, dans l'armée française. Là-bas, il sera blessé pendant la Deuxième Guerre mondiale et démobilisé juste après la guerre. C'est quelque part la chance de Manitou d'avoir été enrôlé dans l'armée française. De ce fait, il n'a pas été déporté. De ce fait, lorsque les nazis ont demandé à Vichy de leur donner des juifs, y compris les juifs d'Algérie, eh bien, tous les juifs qui étaient enrôlés dans l'armée française, eh bien, ils n'étaient pas déportables. Donc, il termine la guerre Et après la guerre, eh bien, il va en France. Il arrive en France et c'est là qu'il va tout de suite, eh bien, s'enrôler, si je puis dire, dans les EI. Ça y est, il rejoint les EI et il a donc la vingtaine passée. Donc, c'est absolument pas le cursus, on va dire, que nous, dans notre génération, on a connu. Nous, on est arrivé, moi, je suis arrivé aux EI à 7 ans. On m'a pas vraiment posé la question. J'ai eu 7 ans, on m'a mis aux EI et puis c'est tout, terminé. Et puis après, d'année en année, les écussons sont arrivés partout. Il n'y a plus de place sur la chemise. Mais qui tourne? Ah, c'est trop gras, effectivement. Non, c'est un concept. Quoi qu'il en soit, donc Manito arrive assez tard aux EI, mais lorsqu'il y arrive, eh bien, très très vite, tout le monde comprend à qui on a affaire, et il va recevoir un nom de totem. Alors oui, attention, aux EI, on reçoit un nom de totem. Dès qu'on a passé un certain moment dans le mouvement, eh bien, on peut recevoir un nom qui est censé refléter ta personnalité, refléter ton identité. Par exemple, pour que vous soyez dans le délire, eh bien, mes parents se sont rencontrés aux EI et mes parents ont chacun reçu un nom de totem, pas au même moment, pas au même moment et pas par les mêmes personnes, mais il se trouve que ma mère a été totémisée Donald, alors que mon père était totémisé Pluto. Et c'était sans concertation entre les gens qui ont totémisé. Et il se trouve que plus tard, eh bien, ils se sont mariés, Donald et Pluto. Donc ça, c'est sympathique. Maintenant, Manito, lui, sera marié avec une femme que tout le monde appelait Bambi et n'appelait pas Esther, alors que c'est son nom. Mais tout le monde l'appelait Bambi. Et donc, vous l'aurez compris, Yehuda Lemon Ashkenazi va se faire renommer Manito. Mazé Manito. Comment est-ce que vous traduiriez Manitou en hébreu? Déjà en français, c'est compliqué. Manitou, c'est des langues amérindiennes, évidemment, mais Manitou en hébreu, ça se dit Aruach Agedola. Ruach Gedola. Grand esprit. Ça a l'air. Donc, Manitou est tout de suite mis en avant comme étant effectivement ce grand esprit. Qui ne va avoir de cesse que de grandir. Lorsqu'il rentre aux EI, donc, qu'il est totémisé, eh bien, il va très vite faire la rencontre de Robert Gamzon, évidemment, Castor Soucieux, le fondateur des EI, qui va également mettre en place l'école d'Orsay. L'école d'Orsay est une école pour créer des leaders du peuple juif. À ce moment-là, il demande à Manitou de rentrer à l'école. Il va rester un an en tant qu'élève. Et très très rapidement, au bout d'un an, il devient maître à l'école d'Orsay, il devient un des formateurs de cette nouvelle génération qui doit reconstruire l'identité juive. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il rencontrera l'un de ses grands maîtres, l'un de ses deux grands maîtres, le Rav, enfin le Rav, non, personne ne l'appelait le Rav, mais il va rencontrer Jacob Gordin, ou alors plus connu, Yaakov Gordin. Et c'est lui qui va le faire rentrer dans le monde de la Torah, un petit peu Torah, on va dire, de Marché avec Israël. C'est lui qui va le faire rentrer dans le monde du Maharal de Prague. Tout ça va commencer à lui trotter dans la tête. N'oubliez pas que nous sommes dans les premières années de la création de l'État d'Israël. Et donc, eh bien, d'année en année, Manitou arrive en Israël. Au début, il arrive à la tête de ses séminaires de l'école d'Orsay. Eh bien, justement pour aller à la rencontre de ce peuple juif qui est en train de se reconstruire en Israël. Et très rapidement, il va rencontrer là-bas en Israël le Rav Tzvi Yehuda Kook, qui va devenir, une fois qu'il montera en Israël, et même avant, eh bien, un de ses grands, grands maîtres à penser. Et en l'occurrence, à chaque fois, et ça Manitou le racontait souvent, à chaque fois qu'il allait voir le Rav Tzvi Yehuda, eh bien, il lui disait qu'il voulait faire son alia. Et le Rav Tzvi lui disait, mais non, mais reste encore à Paris, reste encore à Paris, t'as encore des choses à faire. Jusqu'à ce qu'en 1967, mais là je vais un petit peu plus trop vite, mais en 1967, après la guerre des six jours, il décide que ça y est, il vient en Israël. Lorsqu'il arrive chez le Rav Tzvi après son alia, le Rav lui dit, eh ben, il t'en aura fallu du temps pour comprendre ce que ça voulait dire, allez, reste à Paris. Bekitsour, en 1957, eh bien, avec deux autres grands personnages du judaïsme français, il va créer l'école de pensée juive de Paris. L'école de pensée juive de Paris, qui va donc compter trois personnages, et on reviendra sur ce trio, qui s'appelle Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, André Neher et Emmanuel Levinas. Quand on dit ces trois personnes, ces trois identités dans la même phrase, déjà, ça envoie du lourd. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête de Manitou? Manitou est en train, et particulièrement grâce à l'enseignement de son autre grand maître, Monsieur Chouchani, et quand on dit Monsieur Chouchani, ce n'est pas très clair de qui on parle. Qui était Monsieur Chouchani? C'est une identité extrêmement mystérieuse. Est-ce qu'il s'agissait de Hillel Perman? Est-ce qu'il s'agissait d'un autre personnage? C'est compliqué, l'identité officielle de Monsieur Chouchani. Il restera celui qui va enseigner les secrets de la Torah et surtout la pensée non emprisonnée dans des cadres déjà préétablis. Et c'est ce qui va permettre à Manitou de commencer à grandir, non seulement dans son étude de la Torah, sa façon de la transmettre, et ainsi de suite. Et là, alors, ben voilà, comme je l'ai dit, après la guerre des six jours, il arrive en Israël, et il commence sa nouvelle vie en Israël. Il ne s'arrête pas, évidemment, d'être un éducateur, il ne s'arrête pas de vouloir former la nouvelle génération, il va créer le Machon Ma'ayanot, là encore, pour mettre en avant cette nouvelle génération qui deviendront des leaders du peuple juif. Et en 1990, il reçoit le prix du Yoshev Rosh HaKnesset pour les Echout HaChaim, pour une vie qui mérite d'être recopiée. Il partira en 1996, il est enterré au Mont des Oliviers. Mais comme je vous ai dit, voilà, ça nous a pris 10 minutes de faire les étapes de sa vie, car ce qui est très important et ce qui est fondamental chez Manitou, ce n'est pas tellement les épisodes de sa vie, mais ça va être son enseignement. Et là, il va falloir qu'on comprenne une chose. On va essayer de rentrer dans les enseignements de Manitou, d'essayer de mettre en avant, si je puis dire, les points principaux de la Torah de Manitou. Mais une des choses les plus compliquées, c'est que Manitou, eh bien, c'est Torah chez Béalpé. Manitou, ce n'est pas Torah chez Birtav. Alors aujourd'hui, il commence à avoir plein de livres de Manitou, mais c'est pas lui qui les a écrits. C'est des retranscriptions de ses cours. Et c'est assez incroyable de voir un Rav qui est Kol Kulo Torah chez Béalpé. Et lorsque je dis Kol Kulo Torah chez Béalpé, eh bien, il faut se poser une question. Si on veut comprendre Manitou, est-ce qu'il vaut mieux l'étudier en français ou en hébreu? Pourquoi je pose la question? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Manitou est en train de conquérir le public israélien. C'est assez impressionnant, mais depuis quelques années, 5-6 ans comme ça,